Radio Kapi.
L'entrepreneuriat du Kivu devait être un modèle pour le reste de la RDC, estime le président national de la FEC, accompagné des membres de la FEC à Goma. Albert Yuma est allé évaluer les dégâts causés par la dernière éruption volcanique sur l'économie du Nord Kivu. Début hier à Kisangani de la vaccination anti-Covid, cérémonie organisée à l'hôpital général de Kisangani par la coordination provinciale du programme élargi de vaccination. Des infirmiers et quelques expatriés ont été les premiers à se faire vacciner. L'invité de ce matin, Jacob Bedidjo, chargé des opérations au sein du service anti-mine de l'ONU dans la région de Beni Boutembo Lubero, il nous parle des mines artisanales et des précautions à prendre en cas de danger, cela à la suite des récentes attaques à la bombe artisanale survenues à Beni. Madame, Messieurs, bonjour. L'entrepreneuriat du Kivu devrait être un modèle pour le reste de la RDC. C'est le souhait exprimé par le président national de la Fédération des entreprises du Congo, FEC. Albert Yuma est à la tête de la délégation des membres de la FEC qui séjourne à Goma. La délégation est allée se rendre compte de ce qui s'est passé après l'éruption volcanique du 22 mai dernier, dit-elle. Cette catastrophe a causé beaucoup de dégâts sur le plan économique de la province du Nord Kivu. Pour Albert Yuma, l'entrepreneuriat n'a jamais été aussi dynamique en RDC comme au Nord Kivu. Il appelle le gouvernement à mettre en place les infrastructures pour exporter non seulement la production, mais aussi ce dynamisme. Le président national de la FEC est au micro de Denise Lukeso.
On m'a toujours dit que les entrepreneurs du Nord Kivu sont résilients. Ce n'est pas la première fois qu'il y a eu l'éruption du volcan. Et chaque fois, on voit des images de catastrophes. Et on se dit, mais là-bas, il n'y a plus rien qui marche, il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais depuis que je suis arrivé ici, je vois que l'entrepreneuriat n'a jamais été aussi dynamique. Le Kivu et l'entrepreneuriat du Kivu doit être un modèle pour le reste de toute la République démocratique du Congo. Si on pouvait mettre les infrastructures en place pour relier l'ensemble du territoire afin d'exporter non pas la production, mais le dynamisme des entrepreneurs du Nord Kivu, ce pays serait différent. J'ai entendu qu'il s'agissait de budgets qui vont entre 7 000 et 20 000 dollars. Nous devons structurer des sources de financement pour ce type de projet et c'est ça mon implication et mon engagement pour le futur. Et le message, c'est qu'ils doivent continuer et ils doivent croire en leur capacité et ils peuvent savoir que la FEC sera toujours derrière eux pour les accompagner et aider dans la mesure de ses moyens.
Albert Yuma et toute la délégation ont visité des projets dans le Massissi et Kivu Entrepreneur, une académie qui encadre et accompagne les entrepreneurs en province. Par ailleurs, 90 projets de petites et moyennes entreprises de Goma ont signé hier une convention de financement de leurs activités par le programme PADEM PME. Ces entreprises locales qui œuvrent dans différents secteurs ont été sélectionnées à l'issue du concours des plans d'affaires COPA organisé il y a quelques mois dans différentes villes de la RDC. La cérémonie a eu lieu en présence du ministre en charge de l'entrepreneuriat et du coordonnateur national du PADEM PME, Sifamaguru. Reportage.
Cette convention prévoit un accompagnement financier en plus d'un suivi de ces entreprises émergentes en vue de booster l'économie ainsi que la création de l'emploi. C'est le gouvernement congolais à travers le PADEM PME qui assure la mise en place des investissements et le suivi du plan de travail et des décaissements des fonds. Au niveau technique pour le Nord Kivu, un consortium de 3 organisations dont Kivu Entrepreneur font les coachings et suit l'évolution de ces entreprises. Les lauréats de ces concours de plans d'affaires COPA ont témoigné leur satisfaction pour cet accompagnement du gouvernement. Christian Mugisho et Léontine Kambu Vialirendi travaillent respectivement dans l'industrie avicole et la restauration à Goma.
Nous sommes vraiment heureux de faire partie de ces entreprises PME qui ont réussi ces financements pour booster l'économie nationale. Nous sommes maintenant suffisamment outillés pour faire face. Il y avait ces grands défis d'accès au financement dans notre pays.
COPA m'a beaucoup appuyé, m'a doté de camions, restaurants. Je vais chaque fois amener la nourriture à leur bureau, à des écoles. Oui, oui, ils nous ont formés. Là, maintenant, on est capable de gérer même des grandes.
Notez que ce programme pilote d'appui à l'entrepreneuriat bénéficie d'un financement de la Banque mondiale. Goma, Sifamaguru, Radio Kapi.
Direction la province de la Tchopo, début hier de la vaccination contre le coronavirus par la coordination provinciale du programme élargi de vaccination. La cérémonie présidée par le gouverneur intérimaire a été organisée à l'hôpital général de Kisangani en présence de plusieurs personnalités dont les chefs de bureau de l'OMS et de l'UNICEF. Un reportage de Jacques Moukonkole.
Des infirmiers et quelques expatriés ont été les premiers à se faire vacciner ce jour. Au total, au moins 25 personnes. Quelques infirmiers se sont exprimés à cet effet.
C'est pour prévoir bien avant, parce que s'il y a la maladie, ça vient comme ça, ça trouve que non, je suis déjà vacciné. Alors à partir du vaccin, ça va combattre déjà la maladie.
S'exprimant devant la presse, le chef de bureau de l'OMS Kisangani a tenu à souligner qu'il ne s'agit pas d'une campagne de masse, mais plutôt d'une vaccination de routine. Elle demande à la population d'y adhérer, tout en précisant ceux qui sont concernés dans un premier temps. Marie-Josée Kiko.
Les personnels de santé sont en contact avec des malades, aussi la population qui a atteint l'âge de 55 ans et plus, et les populations ou les personnes qui ont des comorbidités, c'est-à-dire qui ont d'autres maladies comme l'hypertension, l'obésité, le diabète.
Tout en remerciant les partenaires pour cette donation, le gouverneur de province par intérim, Maurice Abibou Sakapela, a exhorté la population à se faire vacciner afin de réduire la propagation de cette maladie.
La meilleure façon d'endiguer cette maladie meurtrière, c'est la prévention. Et la prévention passe impérativement par la vaccination.
Les 1000 doses d'AstraZeneca n'étant pas suffisantes pour couvrir les besoins de la Tchopo, d'autres seront commandées prochainement, assure le chef du bureau de l'OMS Kisangani. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Entre-temps, au Maniema, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, vient d'appuyer le gouvernement provincial d'un lot important de matériel de tests pour les prélèvements. La remise officielle a eu lieu jeudi en présence du ministre provincial de la Santé, Florence Kizalunga. Reportage.
Cet appui venu du secrétariat technique national est constitué de plus de 400 cartouches de matériel de prélèvement et de protection ainsi que des kits de prise en charge contre la rougeole. Docteur Jean Bruno de l'OMS déclare que ces dons arrivent à point nommé.
Dans le cadre de la lutte contre le Covid, il s'agit essentiellement de cartouches qui sont utilisées comme test de diagnostic pour des malades qui sont atteints de Covid. Et vous savez que nous avons passé un temps, quelques mois, sans ces cartouches pour pouvoir confirmer les cas qui étaient là. Et donc cet appui vient à point nommé pour justement aider la province à non seulement confirmer, mais aussi faire de sorte que nous puissions avoir des chiffres exacts des cas qui sont effectivement atteints de Covid dans cette province.
Les ministres sectoriels confirment que la province n'a plus de problème de tests. Kibungi Mutangi Junior.
J'étais hier à l'OMS. Dieu a fait grâce, la province a bénéficié plusieurs colis de tests qui sont venus. Donc on n'a plus de problème de tests dans la province.
Jusque-là, aucun nouveau cas n'est enregistré à part les 66 anciens cas positifs. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Justice. Le verdict est attendu dans l'affaire qui oppose Caleb Mutondo, ancien administrateur général de l'Agence nationale des renseignements ANER, toujours en cavale, au groupe de Jean-Claude Muyambo et consorts. C'était hier que le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe devrait se prononcer sur la poursuite de l'instruction ou se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de la Gombe. Dans une procédure de citation directe devant le tripé, Caleb a attrait en justice ceux qui ont porté plainte contre lui devant la cour d'appel et le TGI pour, entre autres, imputations dommageables et dénonciations calomnieuses. Le rappel des faits avec vous, Jeff Ngoy.
Convoqué à comparaître au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe le 18 février, Caleb ne s'y est pas présenté. Le 9 mars, il y est à nouveau convoqué et c'est à la suite de ces deux absences qu'un mandat d'arrêt sera émis, puis un avis de recherche le 11 mars. Il lui est reproché des faits infractionnels de torture, traitement dégradant et tentative de meurtre des plaignants dont Jean-Claude Muyambo, Christopher Ngoy. Infraction qui serait commise pendant qu'il dirigeait l'ANER. Après avoir maintes fois demandé au procureur général le retrait de son mandat et l'annulation de l'avis de recherche afin de comparaître en homme libre, le conseil de Caleb va exiger le classement de ce dossier sans suite. Et en même temps, il va saisir le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe dans une procédure de citation directe contre les plaignants. Ce dernier, à leur tour, se lance dans la même procédure devant le tribunal de grande instance. Le procès est ouvert d'abord au TGI où accusés comme prévenus brillent par leur absence. naissance aux audiences. Un autre procès s'ouvre au Tripé. Et ici, le 23 mars, les deux parties plaident. La partie Muyambo demande au tribunal de se dessaisir du dossier au profit du TGI, soutenant que deux faits identiques ne peuvent pas être instruits par deux juridictions en même temps. L'affaire est donc prise en délibéré et le juge du Tripé promet de se prononcer incessamment.
Province de Lomami, le directeur de la prison centrale de Ngananjika, condamné à 10 ans de travaux forcés et au paiement des dommages et intérêts de l'ordre de 8 millions de francs congolais à l'État, le verdict du tribunal de grande instance de Cabinda, siégeant en chambre foraine à Ngananjika, est tombé jeudi. Albert Kafuata, directeur de la prison de Ngananjika, est poursuivi pour détournement des subventions de l'État à hauteur de plus de 40 millions de francs congolais destinés à la ration alimentaire des détenus. Après avoir rendu public ce verdict, l'incriminé a sur place interjeté appel. Explication, Esther Ndalafina.
Albert Kafuata Mubanga, directeur de la prison centrale de Ngananjika, a été condamné à 10 ans de travaux forcés par le tribunal de grande instance de Cabinda, siégeant en chambre foraine à Ngananjika. Il doit en outre payer les dommages et intérêts de l'ordre de 8 millions de francs congolais à l'État congolais. Il lui est demandé de restituer également les subventions de l'État à hauteur de 56 millions de francs congolais destinés à la ration alimentaire des détenus de la prison centrale de Ngananjika. La peine principale. Le condamné est déchu de ses droits civiques et politiques durant 5 ans. Pendant cette période, il est interdit d'accès aux fonctions publiques et ne peut bénéficier d'une liberté conditionnelle. Le condamné a interjeté appel. Rappelons que Albert Kafuata Mubanga, directeur de la prison centrale de Ngananjika, est poursuivi depuis le mois de juin dernier pour avoir détourné les subventions de l'État à hauteur de plus de 40 millions de francs congolais destinés à la ration alimentaire des détenus. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Restant dans la province de Lomami, le maire de Cabinda demande au gouvernement central de doter sa ville d'un véhicule anti-incendie. Joseph Kazadingoy a lancé ce cri d'alarme mercredi après avoir évalué les dégâts matériels causés le lundi dernier à la suite d'un incendie qui s'est déclaré dans un dépôt de carburant. D'après des sources sur place, cet incendie a consumé près de 300 fûts de carburant, une somme importante d'argent en francs congolais et en dollars. Quelques maisons des particuliers ont été endommagées par le feu, car la ville de Cabinda ne dispose pas d'extincteurs, moins encore des véhicules anti-incendie. Joseph Kazadingoy, maire de Cabinda, joint par Esther Ndalafina.
Cabinda, c'est une ville, au même titre que toutes les villes à travers le monde entier. Nous continuons à vivre à la manière du village. À chaque fois qu'il y a des incendies, on n'arrive pas à intervenir. Avec le lundi, il y a eu un incendie monstre, un drame, dont les dégâts matériels jusque-là ne sont pas encore calculés. Vraiment, on a perdu l'argent, des millions, en termes de francs congolais, il y a eu des dollars, autant de fûts d'essence, même des bâtiments complètement consumés. Donc la journée de lundi a été totalement paralysée. C'est la première fois que la ville a connu un drame. Dieu merci parce qu'il y a eu des pertes humaines, mais au moins les dégâts matériels sont incalculables. Nous demandons, nous sollicitons au gouvernement central de penser à la ville de Cabinda aussi, mais le gouvernement central peut doter la ville de Cabinda avec les véhicules anti-incendie. Alors, en cas de cas comme celui qui est arrivé là-bas, on peut intervenir. Maintenant, là, tout le monde a assisté puissamment à ces drames parce qu'il n'y avait pas moyen d'intervenir. Avec le sable, vraiment, on n'était pas en mesure de pouvoir l'éteindre.
La mise en retraite mensuelle de 1500 enseignants et agents du ministère de l'EPST à travers la RDC sans application du barème de Mboudi, c'est mettre la charrue avant le bœuf, et ceci va précipiter la mort de ceux qui ont passé près de la moitié de leur vie à former et à éduquer. Déclaration hier à Matadi des responsables provinciaux des syndicats de l'EPST Congo Central. Ils réagissent ainsi au dernier communiqué officiel du ministre de l'EPST tout en saluant cette décision. Ils fustigent la modalité de paie qui a accompagne cette mise en retraite, modalité selon eux qui consiste à payer chaque candidat à la retraite les 13 mois cash du montant de son salaire mensuel. On écoute Gérard Lundoloka, secrétaire provincial du syndicat des enseignants du Congo, SIECO, au micro de Nana Plurish Mambo.
Nous, avant possession du communiqué, après son exploitation, avons constaté ce qui suit. La décision prise par son Excellence Monsieur le Ministre est tant attendue si la retraite est salvatrice, mais nécessite une application conforme au réel salaire des bases non encore acquis aux enseignants et agents du secteur de l'EPST. 2. Nous sommes provisoirement d'accord pour la retraite des 1500 enseignants et agents à la retraite mensuellement après l'octroi du véritable salaire des barèmes des maudits promis par le président de la République, chef de l'État. Mettre en application du contenu de son communiqué, c'est vouloir mettre la charrue devant le B, d'autant plus que l'enseignant et agent de l'EPST n'ont pas encore un salaire approprié. Aussi, vouloir précipiter la mort de cette catégorie du peuple. Étant un gouvernement des warriors, nous croyons que notre réaction sera prise en considération et attirera votre attention particulière pour le bien-être social du personnel enseignant et agent du sous-secteur de l'EPST.
Actualité Afrique Monde.
La France, dont plus de 5000 militaires sont déployés au Sahel, va reprendre ses opérations conjointes avec les forces armées maliennes. C'est après avoir suspendu sa coopération bilatérale à la suite d'un second coup d'État au Mali en mai dernier, a annoncé hier soir le ministère des Armées. Après un deuxième putsch en 9 mois qui a fait du colonel Assimi Goïta le chef de cet État crucial pour la stabilité au Sahel, la France avait déclaré il y a 1 mois suspendre les opérations conjointes avec les forces maliennes avec lesquelles elle coopère depuis des années contre les djihadistes.
L'invité.
Comme annoncé ce matin, nous recevons Jacob Bedidjo. Il est chargé des opérations au sein du service anti-mine des Nations Unies dans la région de Beni, Butembo, Lubero. À la suite des derniers attentats à la bombe artisanale survenus à Beni, il parle des mines artisanales, leur type ainsi que des précautions à prendre en cas de danger. Jacob Bedidjo s'entretient avec Marc Marofimbo.
Monsieur Jacob Bedidjo, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Des attentats avec des bombes artisanales piégées sont enregistrés ces derniers temps en ville de Beni. Tout d'abord, en tant que spécialiste de déminage et vous travaillez pour le compte des luttes anti-mines, c'est quoi une bombe artisanale?
Merci beaucoup. Nous parlons ici présentement d'une bombe artisanale. Alors, dans la région de Beni, couramment, on parle de bombes artisanales. Mais nous, dans notre terme technique, on parle des engins explosifs improvisés, qui est abrégé EEI en sigle. Alors, une bombe artisanale ou bien un engin explosif improvisé, c'est un dispositif fabriqué d'une manière improvisée, d'une manière non conventionnelle, incorporant des produits destructeurs, des produits mortels, des produits nocifs, et des produits incendiaires. Alors là, on ne parle pas d'une munition conventionnelle, on parle d'une munition non conventionnelle. Parce que on peut prendre des éléments de munitions conventionnelles, on y ajoute autre chose, alors ça devient très dangereux. Alors là, ça quitte dans son état conventionnel, ça devient maintenant une bombe artisanale ou bien un engin explosif improvisé.
Oui, monsieur Bedidjo, dans le sens concret, quelles sont les formes que peut prendre une bombe artisanale par exemple?
Merci beaucoup pour la question. Dans notre contexte, nous pouvons retenir, par exemple, la forme de cancérole que nos mamans utilisent. Alors, les cancérole là, on change sa forme. C'est bien couvert, il y a des fils qui sont connectés, il y a d'autres choses qu'on ajoute dans les cancérole et on emballe ça très bien. Alors, c'est pas ça la forme qu'on utilise beaucoup ici, au niveau de Beni. Il y a aussi, par exemple, les bidons aussi, des sacs à dos, vous trouvez ça quelque part, vous n'identifiez pas, la forme s'est changée. C'est pas ça la forme générale de la situation des bombes artisanales au niveau de Beni. Ce sont des munitions ou bien des bombes, des objets qui sont souvent camouflés, ils sont piégés, ils sont difficiles à repérer. Vous ne pouvez pas repérer ça facilement. Et souvent sont piégés dans les chemins, dans les endroits où beaucoup de monde fréquente, dans les champs par exemple, dans les chemins qui amènent dans les sources d'eau, les lieux de regroupement de plusieurs personnes. dans les champs, là où vraiment on voit qu'il y a un intérêt, que la population peut avoir un intérêt, les regroupements du monde, ou bien quelqu'un qui peut aller chercher la nourriture, ou quelqu'un peut aller puiser de l'eau, ou bien les militaires pour prendre tel chemin pour aller attaquer, par exemple. C'est dans ces contextes-là, souvent, on piège ces bombes artisanales. Et il y a toujours des fils qui sortent qu'on ne peut pas facilement repérer. Mais s'il s'avérait que vous voyez un fil qui quitte d'un endroit et vous ne repérez pas la fin, alors ça, c'est déjà aussi, hein, comme j'avais dit, c'est une forme de piège. Hein, et aussi, ils sont camouflés, c'est vraiment difficile pour repérer des trucs comme ça. Par exemple, une lampe torche, toujours camouflée, ce n'est pas vraiment lampe torche comme vous le savez. Par exemple, tout autre objet non identifié, par exemple la batterie d'une moto, où il y a des batteries que nous utilisons, les petites piles là. Que nous utilisons. Ce sont là les trucs là qu'il faut faire beaucoup attention à ce genre de types là. Ce sont ceux qui constituent maintenant la forme ou bien la composante des bombes artisanales ou bien des engins explosifs improvisés.
Alors, compte tenu de tous ces dangers, quels sont les conseils pratiques que vous recommandez à la population pour adopter?
Alors, pour les mesures de sécurité, il faut toujours éviter des places là où il y a beaucoup de monde. Par exemple, il faut aussi jamais s'approcher d'un objet que vous n'identifiez pas. Nous, on dit souvent que si vous n'avez pas déposé quelque chose, il ne faut jamais le prendre. Parce que c'est parfois piégé. Ne jamais toucher, il ne faut jamais collecter, prendre quelque chose que vous ne savez pas. Il faut éviter des zones de rassemblement. Il faut informer les autres et aussi faire les rapports si vous voyez quelque chose suspect. Bon, on ne peut pas dire à la population de ne pas aller au champ, c'est très difficile. Il ne faut pas aller puiser de l'eau, c'est très difficile. Mais là où il y a beaucoup de monde, ces derniers temps, les rassemblements inutiles, il faut éviter ça. Des mouvements dans la ville, sans motif, voilà. Il ne faut pas fréquenter la ville, il faut rester chez vous et faire ce que vous faites à la maison. C'est ce mieux dans ces derniers temps.
Jacob Bilidjo, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.
Notre invité, le chargé des opérations au sein du service anti-mine des Nations Unies dans la région de Beni Butembo Lubero, était avec Marc Marofimbo. C'est la fin de ce journal supervisé par Ben Kabamba, coordination de Richard Junior Kamunga. L'actualité en continu, c'est sur toutes les plateformes numériques de Radio Kapi. Merci de nous avoir suivis.